Ce fut quelques mois après cette infamie que je m'aperçus que j'étais enceinte pour la seconde fois. J'en frissonnais de crainte et d'horreur. Dès que Moresquin s'en aperçut, il employa les plus infâmes sollicitations pour m'obliger d'aller parler pour lui à un directeur. Il ajouta que ne risquant rien, puisque, cet homme n'employant jamais de mots honnêtes, je ne saurais employer les siens, il entendait que je ne fisse pas la bégueule et que tout lui était égal pourvu qu'il eût un emploi. Un habile coiffeur fut amené par lui. Je fus arrangé à ravir. Tout le monde le dit en me voyant. Mais j'avais la mort dans le cœur. Je ne fus prête qu'à 4 heures. Je croyais qu'il allait me conduire en voiture chez le directeur. Mais je fus bien surprise de le voir m'ordonner de sortir à pied avec lui. Il me donna le bras, me fit presque faire le tour du quartier, et me dit ensuite qu'il allait me mener à une comédie bourgeoise où le directeur devait se trouver. « Il te verra, continua-t-il, et il est certain que tu lui donneras dans l'œil. Parle !» Il me dicta ce que j'avais à dire. « Et si tu n'obtiens pas l'emploi, c'est à toi que je m'en prendrai. » J'étais plus morte que vive. Il s'en aperçut et s'en applaudit. J'en étais plus piquante. Il me serra ensuite les poignets à me les faire craquer en me disant « Voilà un petit avant-coureur de ce qui t'attend si je n'ai pas l'emploi. J'entends manger mon pain. Mes enfants seront à moi, mais tu seras catin quand je te le dirai, sage quand je le voudrai. Tu n'existes que pour moi, entends-tu ? Ta famille t'a abandonné, tu m'es vendu comme une négresse, et je me servirai de toi tout de même. À qui aurais-tu recours ? Obéis-moi, et si tu fais mon bien, tu en seras plus doucement. » Je frissonnais, et j'avançais comme un criminel qu'on mène au gibet. Nous arrivâmes. La pièce était commencée. Moresquin avait une loge. Il me fit placer avec grand bruit. Tous les yeux se portèrent sur nous, et le monstre eut la satisfaction de voir applaudir à mes tristes attraits. Pendant la petite pièce, on m'avait montré au directeur qui me regarda beaucoup. On lui dit que j'étais la femme de Moresquin. « Oh, l'infortuné !» répondit-il. Et le monstre l'entendit. Il changea sur le champ de résolution. Il pensa que si je venais à plaire à cet homme, on pourrait bien, au lieu d'un emploi, le faire renfermer. Il convenait lui-même qu'il n'y avait que trop de forfaits dans sa vie pour cela. Il me ramena donc. Mais c'est ici le comble de l'horreur. En route, il alla songer à un autre directeur de bureau qui ne me connaissait pas et dont il n'avait pas été vu. Il m'ordonna de me dire femme d'un confrère qu'il nomma et de me présenter le soir même pour demander un emploi. Il me montra la porte, me força d'entrer en me désignant l'endroit où il allait m'attendre. J'étais bien embarrassé, surtout, je ne voyais pas à quoi pouvait aboutir un pareil mensonge. Mais je n'avais pas à hésiter. Je demandai le maître et mon malheur voulut qu'il fût chez lui. On était à table. À ce mot, une jeune dame, il sortit de la salle à manger où il était avec sa famille et vint dans son cabinet où le domestique m'introduisit. « Que me voulez-vous, belle dame ? Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous. Mon mari est un employé sans bureau. On m'a flatté que vous étiez humain. Nous sommes dans un grand embarras. » « Je serai humain, la belle, si vous êtes humaine. Si je vous suis connue, on vous a dit que j'aimais les jolies femmes. » En parlant, il me touchait la joue et le menton. Je me jetais à ses genoux en lui disant « Ayez pitié de moi, monsieur, que mon mari ait un emploi de votre main ou je serais assommé de la sienne. »« Diable, c'est donc un fier brutal. Serez-vous humaine ?» J'avouerai que je n'entendais pas alors ce mot fatal. Je dis que je me faisais un devoir de l'être quand je le pouvais. Cela me suffit. Envoyez-moi demain votre mari. Quant à vous, la belle, tandis qu'il sera ici, je vous ferai savoir où je devrais vous parler tête à tête. » Il me prit un baiser en achevant ces mots et se retira en me montrant la porte de sortie. Je vins retrouver Moresquin qui fut transporté de joie. En chemin, il se fit détailler tout ce que le directeur avait osé. Il n'en parut pas fort affecté. Il s'attendait à pis. À notre arrivée, il me donna ses ordres pour ma conduite lorsque le directeur me manderait. Et il employa les expressions les plus révoltantes, m'ordonnant les plus grandes infamies, les détaillant et me forçant d'en faire un indigne apprentissage avec lui. Il alla jusqu'à me donner quelques soufflets sur ma joue malade quand je ne m'acquittais pas à son gré ou assez promptement. Cette soirée fut, je puis le dire, une des plus cruelles de ma vie, après celle du dîner des deux ennemis de mon père. La haine, la répugnance, le dégoût, les soulèvements du cœur furent un supplice dont on ne peut se former d'idées. Mais il fallait obéir ou se voir broyer la chair tordue, etc. Le lendemain, le coiffeur revint. Je fus paré encore mieux que la veille, car j'eus tout neuf. Moresquin prit à crédit. Il alla se présenter. J'étais dans le fiacre qui le mena, et je devais paraître s'il était nécessaire. En effet, Moresquin fut employé sur le champ. Mais ses nouveaux confrères l'ayant reconnu, il allait être renvoyé lorsqu'il eut un moment pour me faire avertir. J'entrai chez le directeur qui, à ma vue, se dérida et dit impérativement qu'il voulait que mon mari fût installé, capable ou non, bon ou méchant sujet. À cet ordre, le premier commis s'inclina et Moresquin le suivit. Dès que je fus seul avec le directeur, je sentis qu'il fallait parler net. Je lui dévoilai toute la conduite du monstre, ses ordres qui ne souffraient jamais de réplique, enfin ses abominables conseils. Cet homme fut touché de mon sort. Il me proposa de m'aimer de bonne foi pour me soustraire à un monstre. Je ne demandais pas mieux que d'être soustraite à Moresquin, mais je ne voulais pas me déshonorer. Je parlais de mon père, homme estimé. Au nom de Saxancourt, le directeur fit un cri. « Eh ! C'est le frère d'un de mes amis, d'un homme vénérable, d'un saint ecclésiastique que j'honore malgré mes défauts. Allons, allons, si vous faites un petit péché avec moi, les prières du Saint-Oncle l'effaceront. Il faut absolument que vous soyez ma maîtresse. Et ne craignez plus rien de Moresquin. » Surprise de ce langage, n'ayant plus de confiance, je voulus fuir. Il me retint. « Vous êtes véritablement vertueuse. Je garderai votre vilain mari, sans rien exiger de vous, par considération pour votre père et pour votre oncle. Il va être mis sur le champ à 1 800 livres. » Je fus très contente, et ce fut le premier moment de joie que j'éprouvais depuis mon mariage. De retour à la maison, car je ne parus pas au bureau, j'attendis Moresquin avec quelque impatience pour lui apprendre son sort. Il arriva sur les 8 heures, c'était environ 1 heure après être sorti de son bureau. Je trouvais extraordinaire qu'il ne fût pas venu sur le champ par curiosité. Mais il avait fait autre chose, il avait payé bouteille à un laquais du directeur pour en tirer les secrets du maître. Il n'apprit autre chose sinon que tout le monde était contre lui et qu'il ne garderait pas sa place. Il entra en se frappant le front. Comme il ne parla pas, je commençai contre mon usage. « J'ai de bonnes nouvelles à vous apprendre. Vous avez 1 800 livres, et vous serez sûrement conservé de préférence. Comment, comment ?» J'entrai dans les détails qu'il ne me laissa pas achever. « Ne va pas chercher à me persuader que c'est par considération pour ton oncle ou pour ton père que M. L.T. m'accorde ce que tu dis là. C'est que tu as été sa catin. Je n'en suis pas la dupe. Ah, ça! Songe à présent que tout va rouler sur toi et qu'il ne faut pas que j'en reste là. » Tout ce que je pus dire ne fit aucune impression sur cet homme vil. Soit qu'il feignît, soit qu'il le crût, il me soutint que j'étais la complaisante du directeur. Et cette idée lui donna occasion de me faire 1000 questions infâmes que je ne puis écrire et que j'ai tâché d'oublier. Quel homme, pensais-je. Quelque chose que je fasse, tout devient dans sa main un poison qu'il me force de prendre. Je versai des larmes. Moresquin les regarda comme une confirmation de ses conjectures et, pour me consoler, il me débita sa détestable morale. Je niais. Il m'approuva de nier. Enfin, il fut presque raisonnable à sa manière. Le lendemain, il retourna au bureau. Persuadé que tout lui était permis, il montra de la morgue à ses confrères. Il reçut d'un air insolent la nouvelle de son avancement subi. Enfin, dès le premier jour, il dégoûta tellement M. L.T. que peu s'en fallut qu'on ne le renvoyât. Le surlendemain, ce fut pis encore. M. Moresquin tranchait du maître. On ne lui disait mot par excès d'étonnement. Il parla de déjeuner. Ses confrères acceptèrent. Lorsqu'on eut bu quelques coups, l'imprudent Moresquin ne put retenir sa langue. Il donna clairement à entendre qu'il était protégé de la bonne manière et que j'étais la maîtresse du directeur. On était muet d'étonnement. On se tut. Mais dès que le déjeuner fut achevé, un commis, homme de confiance, alla trouver M. L.T. et lui fit part de ce qui venait de se passer. Le directeur ne pouvait le croire, mais enfin, on le convainquit. Il donna ses ordres. On laissa sortir Moresquin à l'heure du dîner, mais il fut défendu aux Suisses de le laisser entrer. Il dîna fort tranquillement à la maison, en me tenant ses discours de la veille au soir. Il partit fort gai. Environ une heure après, je le vis arriver furieux. Il débuta par briser une chaise. Il écumait. Je crus voir un enragé. Comment oser hasarder une seule question avec un pareil homme ? J'étais tremblante. Il ne m'avait pas encore regardé. Enfin, il jeta les yeux sur moi. « Malheureuse ! S'écria-t-il, tu as parlé contre moi ?» Je crus être à ma dernière heure. Je me jetai à ses genoux pour lui dire, lui protester que je n'avais rien dit contre lui. Sans doute, il allait me maltraiter cruellement quand un garçon marchand de vin entra. Cet homme ignorait que Moresquin fut renvoyé du bureau. « Je viens, lui dit-il, pour vous instruire qu'il y a un complot contre vous. Je vous avertis en apportant du vin dans votre quartier parce que vous m'avez paru bon garçon. On veut vous desservir auprès du directeur parce que vous avez dit imprudemment que madame votre femme était bien appuyée auprès de lui ou par lui et beaucoup d'autres choses qu'on a mal interprétées. C'est pourquoi je vous préviens de prendre les devants si vous ne voulez pas être bientôt remercié. On doit parler aujourd'hui. Ainsi, vous n'avez pas de temps à perdre, car je sais qu'ils ont déjà fait agir. Mais vous êtes à temps, défendez-vous. » Moresquin écouta ce récit, l'air concentré. « J'allais te frapper, me dit-il. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Tu retourneras parler pour moi. » J'y sentis une grande répugnance, mais quand je sus comment Moresquin venait d'être renvoyé, je n'hésitais pas. Je mourais de honte, cependant. Néanmoins, je partis sur le champ. Lorsque je me présentais, l'on me dit que M. L.T. était sorti. Je demeurai jusqu'au soir à l'attendre. Je le vis sortir enfin, et je compris qu'il n'avait pas voulu me recevoir. Je courus à la voiture et je lui dis « Au nom de Dieu et de l'humanité, monsieur, écoutez-moi. Non, je ne vous entendrai pas. Mais demain, je vous ferai parler par quelqu'un. » Je me retirai à ce mot parce que la voiture partit et je vins rendre cette réponse à Moresquin. Il parut foudroyé. Cependant, l'espérance le soutenait encore. Il me parla doucement et bonnement le reste de la soirée.